Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, on va parler d'indépendance des médias.
La meilleure manière finalement de venir en appui à ces journalistes qui se mobilisent contre leurs actionnaires, c'est de les soutenir financièrement et de permettre, pourquoi pas, à ces journalistes de devenir actionnaires de leurs médias. Si après tout vous avez des actionnaires qui soit ne respectent pas l'indépendance du travail des journalistes, ou des actionnaires qui ne permettent pas aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions, il faut proposer une alternative.
Tout à l'heure, vous entendrez l'économiste française Julia Cagé, qui porte une campagne de financement participatif en France pour faire entrer citoyens et journalistes au capital du groupe Le Monde. Mais d'abord, on souhaiterait vous parler d'un site d'information indépendant lancé il y a peu en Algérie. Il s'appelle Toila. Pour vous le présenter, j'accueille Juliette Labrasserie. Bonjour Juliette.
Salut Steven.
Toila.info est né le 15 octobre dernier dans un contexte compliqué, puisque la liberté d'informer des journalistes et des médias en Algérie est un combat de chaque jour et la situation politique reste instable.
Oui, et face à cette situation, ces 11 cofondateurs, tous journalistes, revendiquent une liberté de temps. Ils veulent prendre le temps d'enquêter pour informer les Algériens, leur donner des clés pour comprendre leur société. C'est ce que m'a expliqué Lia Salas, directeur de la publication. Il commence par me donner la signification de Toila.
Toila, ça vient du proverbe algérien, l'akhbar yjibou Toila. Littéralement, c'est l'information est apportée par les rescapés d'une bataille. Mais bon, pour notre journal, bien sûr, nous avons adopté une traduction moins triste. Donc, on a opté pour la formule du poète Amin Khan qui dit « Ici est une vérité retardée par les lenteurs du temps ». Nous nous approprions la formule pour exercer un slow journalisme. C'est-à-dire, ça fait référence aussi à le temps long aussi. C'est le temps que nous donnons pour les vérifications de l'information afin d'informer correctement notre public.
Une des notions fondamentales défendue par Toila, c'est l'indépendance.
Toila revendique son indépendance de trois façons. D'abord, le média appartient à ses cofondateurs, qui sont les seuls actionnaires. Ensuite, il refuse les aides à la presse que propose l'État en Algérie. Et enfin, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est la volonté de mettre en place un modèle d'abonnement.
Et ça veut donc dire, si je comprends bien, que certains contenus ne vont bientôt être accessibles qu'aux seuls abonnés de Toila qui devront se connecter pour les lire.
Oui, Lia Salas et ses abonnés pensent que la gratuité n'est pas un modèle qui permet aux médias algériens d'améliorer leur contenu. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent redevables envers ceux qui les financent, comme les annonceurs ou l'État via les aides à la presse. Mais en fait, ils devraient se sentir redevables envers leurs lecteurs.
Au fil des années, les médias algériens sont devenus presque des cellules de communication qui subissent à la fois l'agenda du gouvernement, ils subissent aussi les stratégies marketing des entreprises, etc. C'est-à-dire parce qu'ils ont des difficultés financières, ils n'aimeraient pas bousculer leurs annonceurs. Et donc, ça donne une information frelatée qui n'aide pas les lecteurs à comprendre ce qui se passe autour d'eux.
En créant leur propre espace médiatique, Lia Salas et l'équipe derrière Toila veulent proposer une nouvelle offre d'information en Algérie.
Oui, et il faut préciser que Lia Salas, c'est aussi le seul journaliste membre du consortium international des journalistes d'investigation. Traditionnellement, la presse algérienne est plus une presse d'opinion que d'investigation. Or, les Algériens aspirent au changement et sont demandeurs d'une nouvelle offre d'information.
C'est donc aussi sur ce créneau que Toila se positionne.
Lia Salas estime que la situation actuelle en Algérie exige un travail sérieux et de la détermination de la part des journalistes.
C'est difficile, mais est-ce qu'on a le choix de résigner ? Il faut continuer, on n'a pas le choix. On doit continuer à faire du journalisme, c'est la seule réponse à ça. On ne doit pas croiser les bras et se dire, voilà, moi je n'aime pas ce discours de victimisation qui fait qu'il y a un petit les gens, ok, c'est parce que c'est difficile, on va s'auto-censurer, il ne faudra pas traiter tel ou tel sujet. Non, la meilleure réponse face à ça, c'est bien de continuer de faire du journalisme. Et c'est la meilleure façon d'ailleurs de solidariser avec les confrères qui sont en prison, c'est de continuer de faire du journalisme.
Toila fait aujourd'hui figure d'exception dans le paysage médiatique algérien. L'équipe derrière ce site d'information espère atteindre rapidement le nombre de 3000 abonnés qui constituerait une première étape vers l'équilibre. Mais l'instabilité politique et économique du pays, couplée à la crise sanitaire mondiale, réduisent la visibilité à moyen terme d'un tel projet.
Et donc on souhaite bonne chance à Lia Salas et Toila.info. On précise aussi que lorsque nous enregistrions cette émission, le site a indiqué qu'il était inaccessible pour certains utilisateurs en Algérie. Sur les réseaux sociaux, Toila n'a pas hésité à dénoncer une censure des autorités. Merci Juliette.
Merci.
L'Atelier des médias.
L'indépendance des médias face aux politiques et aux intérêts privés est une notion qui est également défendue bec et ongle en France par l'économiste Julia Cagé, que j'ai rencontrée cette semaine à Paris. Elle enseigne notamment à Sciences Po et l'une de ses spécialisations, c'est l'économie des médias. En janvier 2020, elle prenait la présidence de la Société des lecteurs du journal Le Monde. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que je l'ai reçue au printemps dernier pour parler des médias dans ce que l'on s'était osé à appeler le monde d'après. Julia Cagé est une femme de conviction du genre à aller au bout des choses. Elle s'est mise en tête de mettre en application les pistes imaginées dans ses livres. Ainsi, en juillet dernier, elle a lancé, avec l'association Un bout du monde qu'elle préside, une campagne de financement participatif. Objectif, je cite, « contribuer à la défense de l'indépendance du groupe Le Monde ». Comment ? Eh bien, en entrant dans son capital pour que journalistes et citoyens y soient représentés. Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Votre campagne de financement participatif s'achève dans quelques jours. J'imagine qu'en ce moment, vous devez avoir les yeux rivés sur Kiss Kiss Bank Bank matin et soir.
Oui, un peu trop, pour tout vous dire. C'est vrai que quand on fait des campagnes de financement participatif, il y a un seuil à atteindre et que quand on arrive au bout de la campagne, ça stresse forcément un tout petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'on est vraiment pas loin du tout de notre objectif et que normalement, on devrait vraiment le remplir. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette campagne de financement participatif nous a permis de mobiliser des centaines de citoyens. On a près de 2 milliers d'adhérents pour l'association Un bout du monde. Cette association, elle va vivre bien sûr après la fin de la campagne de financement participatif. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller sur le site Un bout du monde pour adhérer, ou alors aller sur Kiss Kiss Bank Bank pour profiter des contreparties qui vont avec la campagne de financement participatif. Et surtout, on va avoir une association qui sera créée avec des adhérents à pied d'œuvre dès la rentrée. On va pouvoir organiser les premières réunions du conseil d'administration, du bureau et surtout de l'assemblée générale. Puisque l'idée de cette association, c'est d'être une association citoyenne, démocratique, à but non lucratif. J'insiste beaucoup sur citoyenne et démocratique, parce que vous donniez 5 euros, 10 euros, 50 euros, 500 euros, 1000 euros à l'association, vous aurez une voix. Et ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de cette association, de la gouvernance de l'association. C'est une personne, une voix, parce qu'on veut démocratiser l'actionnariat des médias.
Vendre des livres, ou en tout cas promouvoir vos livres, vous avez l'habitude de le faire. Là, vous portez un autre projet, un financement participatif. C'est une démarche que vous poussez depuis des années. Vous invitez les médias, petits comme grands, à adopter cette démarche. Est-ce que ça a quelque chose, une saveur particulière pour vous?
C'est un peu plus compliqué que simplement vendre des livres où on défend des idées, mais c'est beaucoup plus sympathique aussi d'une certaine manière parce qu'on n'est pas tout seul. Sur Un bout du monde, je suis avec une équipe et une équipe formidable qui depuis des mois a retroussé ses manches et on s'est tous mis à travailler pour cette association, bien sûr de manière bénévole, pour que cette campagne réussisse au mieux. Il y a toute l'équipe d'une part de la société des lecteurs du monde qui s'est engagée avec moi dans cette campagne. Il y a Laure Ponchina qui est secrétaire générale de la Société des lecteurs du Monde, il y a Micheline Orléman, il y a Fabienne Camas, et puis surtout, il y a aussi toute une bande de jeunes ultra dynamiques qui se sont battus pour que cette campagne fonctionne bien. Il y a Cécile Calmon, il y a Hassène Lekarski. Tous ces gens-là se sont mobilisés, et en fait, ça a été un travail d'équipe. On a eu, dès le départ, des volontaires sur le site. Quand vous adhérez à Un bout du monde, vous pouvez aussi choisir d'être volontaire, des volontaires qui ont fait cette campagne avec nous. Puis ça a été l'occasion de faire de très belles rencontres avec plein de citoyens, connus ou moins connus, qui ont accepté de soutenir l'association. Et parmi les parrains de l'association, on a Jacques Toubon, qui nous a vraiment fait un très beau message en nous rappelant que justement, à côté du capital économique, il fallait un capital moral et que les citoyens pouvaient apporter finalement ce poids moral à la gouvernance et à l'actionnariat des médias. On a Lilian Thuram, qui nous a rappelé que certes, seul, on ne peut rien. Et seul, aucun citoyen ne pourra faire la différence aujourd'hui pour l'actionnariat des médias, mais qu'ensemble, on peut tous quelque chose, et que si vous mettez 10 millions de Français qui donnent tous 5 euros, ça fait 50 millions d'euros, et vous pouvez faire la différence même en donnant chacun 5 euros. Et puis aussi des anciens journalistes, Jean-Pierre Côté, qui était à la direction de France 5, Yvan Levaille, qui nous soutient, des anciens du Monde, et puis des journalistes aussi aujourd'hui du Monde et de beaucoup d'autres médias. Et c'est vrai que travailler collectivement, là on a comme chercheur, souvent l'habitude de l'isolement, ça fait aussi du bien parce que ça rend optimiste et ça donne de l'espoir dans la possibilité de changer les choses.
L'association Un bout du monde poursuit deux objectifs. Premièrement, jouer un rôle dans la future gouvernance du groupe Le Monde. Et deuxièmement, venir en soutien à des journalistes et salariés qui souhaiteraient entrer au capital de leurs médias. C'était important, ces deux côtés qui sont complémentaires?
Oui, on a été créé par la Société des lecteurs du Monde et le pôle d'indépendance du Monde. Et la première campagne qui est lancée par l'association Un bout du monde, Entrer dans le Monde, a comme objectif de venir en soutien finalement aux institutions actuelles du Monde, notamment le pôle d'indépendance du Monde, pour renforcer le poids des journalistes et des salariés et des lecteurs dans la gouvernance du groupe Le Monde. Ensuite, Le Monde, d'une certaine manière, a un peu une vocation à être un rôle modèle pour nous. L'idée, c'est de dire que si on peut avoir une présence forte des lecteurs et des journalistes dans un média aussi important que Le Monde, on peut le faire partout ailleurs. Quand Mediapart fait son fonds de dotation, ce qui est une excellente chose, une démarche d'indépendance très importante aujourd'hui dans le secteur des médias, vous avez plein de commentateurs qui vont dire « oui, c'est très bien, mais c'est Mediapart, et Mediapart, c'est une cinquantaine de journalistes, et quand bien même, ça serait une centaine de journaliste, on va toujours dire que c'est pas un modèle qui est généralisable. Le fait de le faire aussi avec Le Monde, c'est une manière de démontrer que c'est un modèle qui peut être généralisable à d'autres médias, à d'autres grands quotidiens. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de titres qui sont en difficulté, beaucoup de titres dont les journalistes sont en conflit et en bras de fer avec leurs actionnaires, et en général quand ils se retournent pour demander un soutien des citoyens, il n'y a personne. Il y a quelques mois, on a eu une mobilisation des journalistes de Libération qui viennent de changer de statut avec le passage de Libération sous un fonds de dotation qui est sous-doté et auquel Patrick Drahi ne veut pas donner de place aux journalistes, justement à la gouvernance de ce fonds. Et les journalistes ont essayé de mobiliser, ils n'ont pas vraiment réussi. Ils n'étaient pas en capacité de le faire dans l'intervalle de temps qu'on leur a laissé. Là, aujourd'hui, dans l'actualité, on voit que, et c'est tant mieux, bravo, les journalistes de Science et Vie se mobilisent contre leur actionnaire Reworld Media, Reworld qui a tué Gradia il y a quelques mois et qui là est en train vraiment de tuer Science et Vie, non seulement Science et Vie mais l'idée même de journalisme scientifique de qualité. Et il faut pouvoir venir en appui à ces journalistes qui se mobilisent contre leurs actionnaires. Et la meilleure manière finalement de venir en appui à ces journalistes qui se mobilisent contre leurs actionnaires, c'est de les soutenir financièrement et de permettre, pourquoi pas, à ces journalistes de devenir actionnaires de leurs médias. Si, après tout, vous avez des actionnaires qui soit ne respectent pas l'indépendance du travail des journalistes, ou des actionnaires qui ne permettent pas aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions, il faut proposer une alternative. Et avec Un bout du monde, on a cette volonté de proposer une alternative.
L'idée, là, c'est que cette cagnotte soit mise de côté, serve de trésor de guerre pour le moment où le capital du groupe Le Monde sera ouvert, c'est ça, j'ai bien compris?
Alors, sur la campagne de financement participatif Entrée dans le Monde, un des objectifs qu'on a, c'est qu'il y a une discussion qui est aujourd'hui entamée de manière très poussée au Monde sur le fait de transformer le Monde en fonds de dotation. On a vu dans le cas de Mediapart que le fonds de dotation, ça pouvait être une très bonne solution. On a vu dans le cas de Libération que ça pouvait être une très mauvaise solution. L'idée avec Un bout du monde, c'est que si vous avez un fonds de dotation qui se fait au monde dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce qui est en train de se dessiner, Un bout du monde puisse apporter au capital du groupe Le Monde et obtenir en contrepartie des droits politiques pour les journalistes et pour les lecteurs du monde à la gouvernance de ce fonds de dotation. Et donc ça, c'est la première chose qu'on veut faire avec Un bout du monde et la campagne Entrée dans le monde. Et au-delà, justement, c'est d'avoir cette capacité d'intervention pour venir en aide à des journalistes en situation de conflit fort avec leurs actionnaires.
L'idée en entrant dans le capital du monde ou d'un autre média, c'est quoi? C'est de constituer une minorité de blocage d'une certaine façon, ou c'est d'avoir accès à des documents, des informations que l'on n'a pas lorsque l'on n'est pas actionnaire?
Alors, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce que ça vous donne comme droit, finalement, le fait d'être dans la gouvernance d'une société par action? Un, ça vous donne des informations. Et il faut pas sous-estimer le poids des informations. À Libération, par exemple, les journalistes n'avaient aucune information parce qu'ils n'étaient pas actionnaires. Si vous n'avez pas d'informations, il n'y a pas de transparence, vous pouvez pas contrecarrer finalement ce que peuvent préparer les actionnaires. Donc, un, ça vous donne de l'information. Deux, ça vous donne du poids politique, une gouvernance. Aujourd'hui, vous prenez... prenons deux cas. Vous prenez Libération, il va y avoir un fonds de dotation avec un conseil d'administration qui n'a que 3 membres. C'est-à-dire que vous avez 3 personnes qui seules vont prendre toutes les décisions. C'est pas du tout démocratique et ça ne permet pas finalement d'avoir de bonnes décisions qui sont prises pour libération. Prenez un autre exemple en Suisse. Vous avez Le Temps, le principal quotidien suisse en langue française, qui vient d'être racheté par une fondation, la fondation Aventinus. La fondation Aventinus a une gouvernance avec 4 membres. C'est pas non plus très démocratique et ça n'inclut aucun journaliste et salarié. Moi, je pense que si on doit aller dans le futur vers des fondations qui possèdent des médias, ce qui est d'une certaine manière une bonne chose puisque ça défend l'idée de l'information comme un bien public, il faut aussi que ce modèle économique s'accompagne d'une gouvernance démocratique des médias, c'est-à-dire avec des droits de vote pour les journalistes, avec des droits de vote pour les lecteurs, pour avoir de l'information et aussi pour avoir du pouvoir, pour avoir du poids dans les prises de décision. Et par exemple, imaginons Science et Vie, par exemple. Si vous aviez un poids des journalistes ou des lecteurs à l'actionnariat, ça ne veut pas dire d'avoir un poids pour déterminer la ligne éditoriale. Un lecteur n'est pas un meilleur actionnaire qu'un actionnaire extérieur. Les journalistes doivent travailler en toute indépendance. Par contre, ça veut dire que si vous avez un actionnaire qui veut, plutôt que d'avoir des articles écrits par des journalistes publiés sur le site internet, mettre des articles qui sont du copier-coller, qui sont du plagiat, qui sont des articles mensongers, là, vous pouvez réagir. Parce que ça, c'est votre rôle d'actionnaire de définir la ligne en termes de qualité d'information qui est produite.
L'information est un bien public, vous le répétez depuis plusieurs années. Y a-t-il des exemples de gouvernance de médias actuellement en France ou dans le monde qui vous inspirent ou en tout cas qui sont pour vous des modèles assez aboutis ?
Un des modèles les plus aboutis, c'est bien évidemment le modèle du Guardian. Et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs parce que
C'est le journal britannique, le Guardian.
C'est le journal britannique, c'est un journal qui a été créé en 1821, qui est passé en 1936 sous la coupe d'une fondation qui s'appelait le Scott Trust à l'époque, qui a changé légèrement de statut en 2008, qui s'appelle aujourd'hui le Scott Trust Limited. Mais pour dire rapidement les choses, ça fait plus de 80 ans que le Guardian est possédé par une fondation. Tout le monde prend le Guardian comme exemple. Quand on parle de fondation, tout le monde prend le Guardian, mais très peu vont au bout de la logique. Parce que comment fonctionne la gouvernance du Guardian ? La gouvernance du Scott Trust implique plusieurs représentants du journal. Et c'est statutaire. C'est pas une décision aujourd'hui du Scott Trust de mettre ou non des représentants du journal dans le conseil d'administration de la fondation. Vous avez le directeur de la rédaction qui est dans le conseil d'administration de la fondation, vous avez des représentants des journalistes qui siègent au conseil d'administration de la fondation et vous avez aussi des personnalités qualifiées. Donc il n'y a pas du tout finalement d'intérêt économique ou financier dans la gouvernance. Vous avez vraiment une gouvernance démocratique qui implique les journalistes. Et ça, je pense que c'est un premier exemple et c'est sans doute un exemple excellent. Ensuite, je pense que ça vaut le coup aussi de s'arrêter et de regarder un peu ce qu'a fait Mediapart, puisque Mediapart, dans la gouvernance de son fonds pour une presse libre, a mis deux représentants des journalistes de Mediapart, et aussi un certain nombre de personnalités qualifiées. Et donc là, on voit aussi qu'on a une gouvernance qui inclut des journalistes et qui est démocratique. S'il n'en tenait qu'à moi, j'irai au-delà de 2 sur 8 en termes de journalistes à la gouvernance. Je pense qu'il faut des journalistes et des salariés à hauteur de moitié à peu près de la gouvernance des fondations, et il faudrait aussi des représentants des lecteurs. Ça me semble extrêmement important d'avoir des représentants des lecteurs, pas majoritaires d'ailleurs, minoritaire, mais je pense que de prendre en compte le point de vue des lecteurs et des citoyens, c'est aussi une manière de reconstruire un lien de confiance entre les médias d'une part et les citoyens de l'autre.
L'information est un bien public, on le disait. Qui plus est en temps de crise, j'ai envie de dire, en tout cas ça, pour vous, c'est le moment et nous sommes sans doute dans la période pendant laquelle il faut faire des choses, faut créer et il faut agir pour le futur de l'information et des médias.
Oui, parce que si on regarde ce qui est en train de se faire aujourd'hui, tout le paysage médiatique est en train d'être bouleversé, complètement bouleversé. Et finalement, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est l'avenir des médias pour les 10 ou 15 prochaines années. Et si on fait rien aujourd'hui, on risque malheureusement de se retourner demain, de s'apercevoir qu'on a un paysage médiatique encore plus concentré, et encore davantage entre les mains d'un petit nombre de grands industriels. Et tout ce qu'on discute aujourd'hui sur le futur des médias en France, c'est de savoir qui de Bernard Arnault ou de Vincent Bolloré va prendre la plus grande part dans l'Empire Lagardère. Moi, je pense qu'on peut avoir des alternatives. Et je pense qu'on peut essayer de trouver mieux qu'un Vincent Bolloré qui a pratiqué la censure de manière ouverte à Canal+, avant de détruire ITD, pour reprendre le JDD, Paris Match ou Europe 1. Et qu'on peut aussi trouver mieux qu'un Bernard Arnault qui sait aussi, quand il le faut, manier la censure aux Parisiens pour faire en sorte, par exemple, qu'on ne couvre pas les films de François Ruffin. Il faut rêver à mieux. Et rêver à mieux, c'est s'en donner les moyens, ce qui suppose aussi de mobiliser les citoyens. Et c'est là où je veux dire à tout le monde que c'est important d'adhérer à Un bout du monde. Parce que d'une certaine manière, on peut pas simplement se plaindre des médias aujourd'hui en disant « Ah, ben, on n'a plus confiance dans les médias parce qu'ils sont tous possédés par de grands industriels. » D'une certaine manière, on a aussi les médias que l'on mérite. Il faut prendre ses responsabilités. Et finalement, là, ce qu'on propose avec Un bout du monde, c'est de dire à chacun « Essayons de faire la différence à hauteur de vos moyens. » Et que vous donniez 5 € ou 50 €, en fait, vous mettez le pied dans la porte et vous nous permettez de faire la différence. Et ça, c'est extrêmement important, y compris chez les plus jeunes.
C'est ce que j'allais dire, vous voulez embarquer justement les jeunes et les milieux populaires.
Exactement. Moi, je comprends très bien que quand on est jeune, quand on a un petit salaire, on ne peut pas payer 10, 12 euros, 15 euros par mois pour s'abonner à un média. C'est trop cher. Le budget est trop élevé. Et je comprends très bien que de ce point de vue-là, on consomme de l'information gratuitement. Par contre, je pense qu'on peut faire un effort financier de 5 euros par an. Et faire cet effort financier, c'est aussi montrer qu'on est prêt à payer pour avoir des médias indépendants et de qualité. Et donc, j'essaie d'embarquer tout le monde avec moi, le plus grand nombre, et surtout tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'un certain nombre de médias, c'est pas pour eux. C'est pour ça qu'on a appelé ça « entrer dans le monde ». C'est pour dire à tout le monde, à tous les citoyens, qu'il n'y aurait pas des médias pour une élite ou des médias pour Parisiens versus des médias pour les autres citoyens. Les médias, c'est important pour nous tous. Nous tous citoyens, en démocratie, on a besoin d'être bien informés de manière indépendante et cette initiative vise à y contribuer.
Vous pensez aussi que c'est dans l'intérêt des principaux actionnaires actuels des médias eh bien, de soutenir votre démarche ou en tout cas de ne pas y être hostile dans la mesure où ils pourraient y voir un certain intérêt pour leur image et donc potentiellement pour les revenus aussi des médias dont ils sont actuellement actionnaires.
Alors je ne pense pas tellement en termes de revenus d'une certaine manière parce que moi dans ma vision des médias, il faudrait des médias à but non lucratif justement, donc dont on ne tire pas des dividendes, mais dont on essaie de maximiser la qualité de l'information qui est produite. Par contre, je pense que les actionnaires actuels qui financent les médias n'ont aucun intérêt à voir aujourd'hui un tel sentiment de défiance envers les médias. Aujourd'hui, la défiance est énorme. Vous avez moins d'un quart des Français qui font confiance aux médias. Et surtout, tous les actionnaires qui aujourd'hui se présentent comme des mécènes des médias, qui disent posséder les médias non pour des raisons financières, non pour des raisons de pouvoir politique, mais simplement parce qu'ils aiment l'information, ben je pense que c'est une façon, c'est l'occasion pour eux de montrer leur amour de l'information. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles c'était important pour moi de me présenter et d'être élu à la présidence de la Société des lecteurs du Monde et de faire ça aussi avec le Monde en embarquant les journalistes du Monde, les lecteurs du Monde, les salariés du Monde. Parce que le Monde, il ne faut pas oublier que jusqu'en 2010, ce journal avait comme actionnaire de référence ses lecteurs, ses salariés, ses journalistes. Vous avez une société des rédacteurs au Monde, vous avez une société des lecteurs au Monde, vous avez une société des salariés au Monde, et vous avez ce pôle d'indépendance. Le Monde, c'est un média qui montre qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un pôle d'indépendance, le fait d'avoir au conseil de surveillance d'un groupe, d'un journal comme Le Monde, des représentants des salariés, des journalistes, des lecteurs, bah, ça fonctionne plutôt bien. Je pense qu'il faut le pousser, je pense qu'il faut aller encore plus loin, renforcer ce poids des salariés, des lecteurs, des journalistes. Je pense que ça n'ira jamais à l'encontre des actionnaires à partir du moment où on a des actionnaires désintéressés qui préservent l'indépendance des médias. Bien sûr, si on veut faire ça demain à CNews, je suis pas sûre que ça plaise entièrement à Vincent Bolloré. Mais après tout, vous avez des médias aujourd'hui qui sont là pour informer les citoyens, pas pour faire plaisir à leurs actionnaires. Et parfois, il est temps d'essayer d'inverser le rapport de force.
Dans un article paru dans Le Monde sur votre combat actuel, ça a été justement présenté comme le combat de David contre Goliath. C'est vous-même qui disiez ça, vous en êtes consciente. Et comment est-ce que justement vous trouvez l'énergie? Est-ce que c'est un petit peu l'idée du colibri qui fait sa part dans cette action? Et fondamentalement, à partir de quand est-ce que vous direz « Ok, mon objectif est atteint ».
Je dirais que l'objectif est atteint d'une part avec la campagne d'entrée dans le monde, quand on aura la mise en place du fonds de dotation de la fondation Au Monde avec des sièges garantis à la gouvernance pour les journalistes et pour les lecteurs. Ça sera le premier objectif. Le deuxième objectif, d'une certaine manière, sera atteint quand, là, dans toutes les crises qui se multiplient dans les secteurs des médias, on aura une action qui sera réussie de la part d'Un bout du monde. On aura réussi à proposer une alternative et on aura réussi à faire monter des journalistes et des salariés à l'actionnariat de leurs médias. Je pense que le troisième objectif sera atteint quand, à un moment donné, les actionnaires s'apercevront du fait que les citoyens sont prêts à se mobiliser auprès des journalistes, justement pour garantir une gouvernance démocratique, et de fait ouvriront les conseils d'administration, les conseils de surveillance aux journalistes et aux citoyens. C'est un combat de longue haleine, hein. On l'aura pas fini demain. Ce qui est faux dans la métaphore de David contre Goliath, c'est que David est tout seul. Nous, l'avantage, c'est qu'on est plusieurs, on est nombreux, et c'est l'idée aussi d'aller mobiliser le plus grand nombre possible d'énergie de citoyens. Si j'étais toute seule, ça serait un combat perdu d'avance et qui ne vaudrait pas la peine d'être mené. Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est de voir que depuis des semaines et des mois, on a énormément de messages positifs, de soutien, de personnes qui se mobilisent auprès de nous. J'en ai nommé quelques-unes tout à l'heure. Je pourrais rajouter, je sais pas, un Philippe Toreton qui s'est mobilisé avec nous du côté des journalistes, Fabrice Arfi à Mediapart, Lorraine Bastide de La Poudre, Aline Zalco qui est une dessinatrice de presse qui nous a fait des très beaux dessins pour la campagne de financement participatif, Cartooning for Peace qui dès le départ a été notre partenaire. On voit qu'on a besoin de toutes les énergies et ça fait longtemps, ça c'est une des choses qui m'a fait le plus plaisir et qui fait que je suis prête à pas dormir beaucoup d'une certaine manière. Et on a eu beaucoup de réactions, que ce soit de la part de citoyens ou de journalistes, qui disaient ça fait longtemps qu'on n'a pas vu finalement une initiative pour essayer de se battre pour l'indépendance des médias et de proposer un modèle alternatif. Je pense que si ce combat, on ne le mène pas aujourd'hui, on ne le mènera jamais. D'une certaine manière, après, ça sera trop tard. Donc, essayons de le mener aujourd'hui. Et je pense que, d'une certaine manière, on peut réussir à faire changer les choses. Si on échoue, au moins, on aura essayé. Mais je ne pense pas qu'on est parti pour échouer.
Julia Cagé, nous sommes sur RFI. Expliquez-nous à quel point votre combat a une vision aussi universaliste et peut être dupliqué dans le monde entier.
Ce combat peut être dupliqué dans le monde entier parce que ce qu'on propose finalement avec Un bout du monde pour les médias en France, ça n'a rien fondamentalement d'unique puisqu'on retrouve les mêmes difficultés un peu partout. Un bout du monde, il faut savoir que ça a pour objet, on l'a dit, Le Monde, l'ensemble des médias d'information politique et générale en France. Et en fait, si vous regardez les statuts d'Un bout du monde, l'ensemble des médias francophone. Donc l'idée pour nous, c'est pas seulement de soutenir des médias en France, mais ça serait de soutenir des médias en Belgique, de soutenir des médias en Suisse. Tout à l'heure, j'évoquais l'exemple du Temps, de soutenir la presse francophone en Afrique, par exemple, et un peu dans d'autres parties du monde. Je pourrais penser également au Québec. Donc il n'y a pas du tout de raison que l'action d'Un bout du monde se limite au seul paysage français. Ensuite, tout à l'heure, on soulignait l'exemple du Guardian, qui nous inspire en France. Une fondation comme Un bout du monde, si ça pouvait inspirer une démarche similaire aux États-Unis, ça serait bienvenu. On voit que les initiatives se nourrissent les unes les autres. C'est parce qu'il y a eu ProPublica aux États-Unis, d'une certaine façon, qu'il y a eu The Bureau au Royaume-Uni et qu'il y a eu Disclose en France. Voilà, c'est les réussites des uns qui alimentent les réussites des autres. Nous, Un bout du monde, on veut aider les médias francophones en France et pas seulement en France, et on veut aussi que la démarche qu'on porte ici puisse inspirer d'autres initiatives un peu partout dans le monde.
C'était l'économiste française Julia Cagé. La campagne de financement participatif de l'association Un bout du monde, qu'elle préside, se poursuit sur la plateforme KissKissBankBank jusqu'au jeudi 10 décembre 2020. On approche de la fin de cette émission, c'est maintenant le moment de Mondoblog Audio qui donne la parole aux blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Partons en Mauritanie où le journaliste et blogueur Bakary Gueye déplore l'état des médias d'information dans son pays.
En Mauritanie, la presse est dans un piteux état, pour ne pas dire à l'agonie. Aujourd'hui, la presse écrite est supplantée par la presse électronique, qui comprend un conglomérat de sites aussi farfelus et peu crédibles les uns que les autres. Cette presse fait face à un manque cruel de journalistes qualifiés, et les règles les plus élémentaires de la profession sont foulées aux pieds. Le comble, c'est que les autorités sont plus enclines à traiter avec cette presse de pacotille qu'avec les très rares organes plus sérieux qui existent. En réalité, cette médiocrité, cette pagaille généralisée est savamment entretenue par les autorités qui ne souhaitent pas voir l'émergence d'une véritable corporation professionnelle. Les autorités mauritaniennes ont donc opté pour l'absence totale de soutien envers les organes de presse, créant ainsi leur clochardisation. Les journalistes travaillent sans contrat, la plupart travaillent sans salaire. Ils vivent donc dans la précarité la plus totale. La libéralisation de l'espace audiovisuel avec l'apparition des radios et des télévisions privées avait constitué un grand pas en avant en Mauritanie. Mais ces nouvelles stations n'ont pas été accompagnées par l'État, qui a très vite eu peur de leur capacité de nuisance face aux intérêts du pouvoir. Ces médias bénéficiaient d'une audience très large. Les citoyens ordinaires y avaient accès, car on y parlait toutes les langues locales. Pas besoin d'avoir été à l'école pour profiter de leurs programmes. Avec la liberté de ton, la variété des sujets, aucun sujet n'était tabou. Ils se sont tout de suite distingués. Mais très vite, ces médias privés ont eu des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, ils sont tous sous embargo et le couperet du pouvoir plane toujours sur leur tête. Du côté de la presse publique, la situation n'est guère meilleure. La production d'informations journalistiques est quasi inexistante et les programmes sont d'une pauvreté effarante. Sur la radio ou sur la télévision nationale, le programme est 100% musical ou poétique. Et ce, bien qu'ils disposent de moyens financiers, ils sont donc loin de jouer leur rôle, alors qu'ils devraient être des outils de développement. Le secteur de la presse a perdu ses lettres de noblesse en Mauritanie. Aujourd'hui, il est devenu complètement moribond. C'est un constat terrible pour le pays et pour la liberté de la presse.
Mondoblog.
C'était le journaliste et blogueur mauritanien Bakary Gueye qui nous proposait une lecture de son billet intitulé « Mauritanie, une presse qui se cherche toujours », dans lequel, je vous rassure, il donne aussi des pistes de solutions pour relancer les médias dans son pays. Retrouvez-le sur son blog bakary.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Comme chaque semaine, elle est disponible en podcast dans une version longue avant même sa diffusion à la radio. Abonnez-vous à l'Atelier des médias de RFI sur Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Un grand merci à Simon De Creuse qui a soigné comme chaque semaine la réalisation de cette émission, à Camille Deloche qui a supervisé Mondoblog Audio et à Juliette Labracherie que vous avez entendu au micro tout à l'heure. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.